Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à tous, ici Aurélie pour Air d'Ivoire, à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Aujourd'hui, dans l'interview du jour, nous allons évoquer Elle brûle, une pièce de théâtre proposée à la Comédie de Valence, donc du 4 au 8 novembre dès 20h. Pour ce faire, j'ai la chance d'être en conversation téléphonique avec Mariette Navarro, qui s'est partagé l'écriture de ce beau projet avec les hommes approximatifs. Alors pour commencer, bonjour Mariette.
Bonjour.
Alors, Elle brûle, si vous pouviez nous faire un petit speech, on en saurait un petit peu plus quand même pour commencer.
Oui. Alors, Elle brûle, c'est en fait une enquête, on va dire, une enquête sur la vie et la mort d'une femme qui s'appelle Emma, qui est mariée à un médecin qui s'appelle Charles. Ils ont une fille, voilà, ils vivent dans une maison, dans un village, avec d'autres personnages qui passent dans cette maison. Et on apprend assez vite, dès le début du spectacle, que Emma s'est suicidée parce qu'elle a contracté d'énormes dettes. Donc le spectacle, en fait, et notre travail consiste à enquêter un peu sur la vie de cette femme et sur l'engrenage dans lequel elle est tombée.
D'accord, donc j'imagine qu'on évolue au fil de cette enquête.
Voilà, on revient en fait en arrière et on suit la vie de cette femme pendant une dizaine d'années et les relations qu'elle a avec les membres de nous, qu'on appelle la communauté, parce que il y a les membres de sa famille, mais il y a aussi un personnage qui s'appelle Damien, qui passe pour entretenir des choses dans la maison, donc qui assiste à certaines scènes, qui est là. Il y a aussi le professeur de musique de la fille qui s'appelle Léo et qui deviendra l'amant d'Emma. Il y a la mère de Charles, donc la belle-mère d'Emma, qui est là aussi. Donc toute cette communauté vit sous nos yeux. On essaye de faire un travail assez important sur les gestes du quotidien, sur la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Et en même temps, tout en racontant de façon sous-jacente un drame qui va exploser.
Alors, avant de poursuivre un petit peu sur le fil de l'histoire, si toutefois on le fait, hein, j'aurais eu envie d'évoquer avec vous la phase d'écriture, hein, que vous avez donc partagée avec les hommes approximatifs. Comment vous trouvez l'idée et comment vous élaborez le filon et comment vous arrivez à le graver sur le papier ?
Alors en fait, justement, les choses ne sont pas gravées sur le papier, sauf quelques détails pour mémotechnique, mais en fait, c'est un spectacle qui se construit vraiment à partir d'improvisation. On arrive le premier jour des répètes avec une matière assez énorme de documents, de rêveries, un espèce de scénario d'ensemble sur toute la vie de ces personnages, une frise chronologique, des images, des photos, voilà, on rêve autour de ça. Et à partir de là, on définit des situations dans lesquelles les personnages pourraient se rencontrer, et là, les acteurs improvisent. Donc, par exemple, les deux premières semaines de répétition, on n'a fait que des improvisations qu'on a filmées, et à partir de là, eh bien, on prend les moments qui nous paraissent les plus justes par rapport à l'histoire qu'on veut raconter, et on les retravaille et on les précise, mais toujours en improvisation. Ce qu'on appelle une écriture de plateau, c'est que ça se fait vraiment en direct de la répétition. Il n'y a pas de scénario pré-écrit, même si on sait très bien ce qu'on veut raconter, où on veut aller. Les comédiens savent très bien quel est leur personnage, ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. Voilà, mais il n'y a pas de scénario écrit. Et à l'intérieur de ça, il y a simplement quelques textes qui parfois viennent se glisser. Des textes que j'écris moi plus particulièrement et qui viennent ouvrir d'autres fenêtres, mais c'est vraiment très ponctuel.
Donc la trame est figée, le jeu non finalement, ce qui fait qu'à chaque soir de prestation, on aura une proposition différente. Chaque spectacle sera différent du prochain ou du précédent, j'imagine.
Oui, voilà. En fait, les comédiens, petit à petit, ont vraiment des repères très précis à l'intérieur des scènes, ce qu'on appelle des tops ou des rendez-vous, en fait. Mais les mots qu'ils disent ne sont pas fixés. Ils savent qu'ils doivent parler de telle chose, que quand ils en arrivent à tel sujet, l'autre personnage doit les couper ou doit entrer ou la lumière change. Enfin, il y a une écriture quand même très précise de tous les éléments. Mais par contre, selon les soirs, selon l'énergie, selon l'humeur dans laquelle ils ont envie de mettre leur personnage, ça peut, oui, légèrement être modifié.
Alors, quels événements ou quel événement, tout simplement, fait qu'aujourd'hui, vous écrivez un texte sur ce sujet ?
Le point de départ, c'est ce fait divers. Alors, au tout départ, le fait divers qui a eu lieu au 19e siècle qui fait que Flaubert a écrit Madame Bovary, mais finalement, ça, c'est passé au second plan. Maintenant, nous, on cherche à faire exister ce qui pourrait être un fait divers contemporain, et on en trouve dans l'actualité des exemples d'une personne qui se jette à corps perdu dans quelque chose, qui finit par être surendettée et qui arrive au suicide. Et ce qui nous intéresse, c'est comment, à l'intérieur d'une cellule familiale, quelqu'un peut être désespéré à ce point et les personnes qui l'entourent ne pas s'en rendre compte, et notamment son mari. On parle beaucoup aussi dans le cours du travail de l'affaire Jean-Claude Roman, qui a eu lieu il y a quelques années, où cet homme a fait croire toute sa vie qu'il avait un travail, qu'il était médecin, alors qu'en fait il passait ses journées sur un parking à attendre que la journée se passe, et il n'avait pas de travail et il trouvait de l'argent en détournant les comptes de ses proches. Donc on s'est un peu inspiré de toutes ces choses-là pour se demander comment la détresse de quelqu'un et sa difficulté à être au monde pouvait passer inaperçu sans que cette personne-là soit pour autant un monstre ou sans que ce soit étonnant. Mais
oui, moi j'ai quelques mots qui me viennent, dont hypocrisie, mais j'imagine que c'est un petit peu en décalage, parce que sommes-nous finalement hypocrites? J'imagine que ce silence est dû à l'envie de préserver son entourage, donc ça ne relève pas de l'hypocrisie finalement. C'est quoi? C'est la bienveillance? Comment vous pouvez en parler?
Alors non, oui, moi je n'utiliserai pas le mot d'hypocrisie, mais plutôt un engrenage. Comment une pulsion peut pousser quelqu'un tout à coup soit à mentir, soit à faire le premier pas, à tromper son mari, ces choses-là, et comment après, une fois qu'on a mis un pied dans l'engrenage, on est pris au piège soi-même de ses propres mensonges, de son propre scénario.
Pour travailler avec les comédiens, est-ce que vous sentez que le fait d'exploiter ce type de propos, est-ce que vous sentez que réellement il y a une prise de conscience suite à l'élaboration de cette aventure?
On travaille beaucoup aussi avec ce que les comédiens font, avec ce qu'on est chacun d'entre nous et avec notre propre rapport au monde. Et on essaye toujours de trouver l'endroit où cette histoire-là, on se dit qu'elle peut arriver à chacun d'entre nous, comme le fait divers finalement peut arriver à des gens qu'on connaît, peut nous arriver à nous-mêmes. C'est comment personne d'entre nous n'est extraordinaire et peut se retrouver dans des situations complètement spectaculaires du jour au lendemain. Et surtout, on essaye de travailler avec l'humanité, entre guillemets, c'est-à-dire aussi avec la sensibilité de chacun et la difficulté de chacun à être au monde d'une façon ou d'une autre. En fait, chacun négocie et se débat avec la violence du monde. Et nous, on essaye aussi de faire sentir ça, c'est-à-dire pas seulement à l'endroit du personnage principal, mais aussi que chacun des autres personnages se débat avec une certaine forme de violence, avec des compromis,
avec ce qu'est la vie finalement.
On avance tous finalement avec la vie.
Oui. On va revenir à des choses plus pragmatiques, hein, j'ai envie de dire. L'avez-vous déjà joué, ce Elle brûle?
Eh ben, pas du tout, parce que la première est dans quelques jours. Donc nous sommes encore en répétition et même encore en train de modifier les choses, de changer, de trouver de nouvelles idées. Donc c'est vraiment en mouvement encore jusqu'à lundi.
Donc lundi 4 novembre, des 20h. Ouais.
Hein. Voilà, lundi c'est notre première. Donc on n'a pas encore joué et ça va vraiment être la première fois qu'on présente ce spectacle au public.
Alors, comment vous vous sentez tous à l'approche de cette première date?
Bon, évidemment, oui, on a le trac, et puis on est vraiment encore en travail, donc on a l'impression qu'il y a encore plein de choses à chercher, à trouver pendant ces quelques jours. Donc on n'a pas le temps de trop penser non plus à l'arrivée du public.
En tout cas, nous, on pense à vous, on vous envoie plein de bonnes choses pourvu qu'il y ait plein de monde ce lundi 4, hein, pour cette première. Donc, je répète, hein, Elle brûle à la Comédie de Valence du 4 au 8 novembre dès 20h pour le coup, pour chacune des dates proposées. Nous, dans tous les cas, ici à RDIWA, on vous souhaite plein de bonnes choses, et puis je vais un petit peu annoncer la couleur pour nos auditeurs. Donc, Elle brûle, ça se passera du lundi 4 novembre au vendredi 8 novembre dès 20h. Renseignements pour la presse, en tout cas, Colline Loger au 06 03 43 77 21. Vous pouvez aussi lui envoyer un mail à l'adresse suivante. Colline, comme ça se prononce, Loger, comme ça se prononce, à l'infinitif, j'ai envie de dire, ER à la fin, donc @comediedevalence.com. Et sinon, vous pouvez toujours appeler Amélie Bilot au 06 07 04 92 38. Voilà, je vous remercie de toutes
Merci
ces précisions, Mariette. Et puis, ben, comme je dis souvent aux théâtreux, en tout cas au monde du spectacle, mais aux théâtreux plus en détail, merde.
Voilà, alors il ne faut pas répondre, mais nous prenons.
Alors on s'arrête là. Merci et puis ben, plein de bonnes choses à vous.
Oui, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Donc je vous informe que cette interview est désormais disponible sur le site www.rdwa.fr dans la rubrique du même nom et ce de manière illimitée. Moi je vous dis à bientôt dans l'interview du jour. Bye bye.
She has started broken winged and broken hearted. There's a light at the end of the tunnel of love. She knows, she knows. She tried to be your dear devoted, suck up all the air in the room, envelop the flesh, the very flesh of your soul. It must be love. But she's able and she's willing to light the fuse. All she wanna do is be with you. But she's still, she's burning, burning, not just as far I guess. She's burning. It's always been this way without within. I believe it hurts just a little bit. She knows, she knows. She tried to be your dear devoted, suck up all the air in the room, instead of the flesh, the very flesh of your soul. It must be love. She's able and she's willing. She's burning.
L'interview.